Studio Tamani, voici nos informations en français.
Lundi 10 janvier 2022, il est 8h dans ce studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la CEDEAO et l'UEMOA ont pris des sanctions très sévères contre le Mali lors de ce sommet extraordinaire ce dimanche à Accra, au Ghana. Il s'agit entre autres de la fermeture des frontières et la suspension des transactions commerciales entre les États membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et le Mali. Et face à cette situation, le gouvernement du Mali a réagi. Il décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les pays de la CEDEAO et procède à la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes. Les autorités maliennes prévoient également de réexaminer la participation du pays dans ces entités concernées. Football, la 33e édition de la CAN Cameroun 2021 a débuté ce dimanche. Cette édition paraît comme un rappel pour des supporters maliens de Yaoundé de 1972. Les Aigles du Mali seront-ils en mesure de faire les mêmes exploits? La présentation de ce journal avec Adama Amadou Haïdara. La fermeture des frontières entre le Mali et les autres pays de la CEDEAO, c'est une des sanctions prises par les communautés économiques des États de l'Afrique de l'Ouest. La décision a été prise hier au cours du double sommet extraordinaire de l'UEMOA et la CEDEAO à Accra. La CEDEAO regrette l'échec des autorités de transition à organiser l'élection présidentielle d'ici au 27 février 2022, comme indiqué dans la charte de la transition. Le point de ce papier de Draman Meïga avec la voix de Moumine Saint-Debout.
En plus de la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la CEDEAO suspend toutes les transactions commerciales entre ses pays membres et le Mali, à l'exception des produits médicaux et des premières nécessités. L'organisation a annoncé aussi le gel des avoirs du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO. Le pays est aussi suspendu de toute aide financière des institutions financières de l'organisation. Les chefs d'État membres de la CEDEAO et de l'UEMOA disent trouver le chronogramme électoral proposé par les autorités de la transition totalement inacceptable. Ces documents prévoient la prochaine élection présidentielle au Mali en 2026, ce qui nécessite une prorogation de la transition d'une durée de 5 ans. La CEDEAO déplore ainsi, je cite, « le manque évident et flagrant de volonté politique des autorités de transition qui a conduit à l'absence de tout programme dans la préparation des élections. » Fin de citation. Le communiqué final du sommet précise que les sanctions contre le Mali seront appliquées immédiatement et resteront en vigueur. La levée de ces sanctions est conditionnée à la finalisation d'un chronogramme acceptable suivi de progrès satisfaisants dans sa mise en œuvre. La CEDEAO a décidé aussi d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO qui prête à toute éventualité. Elle a appelé l'Union africaine, les Nations unies et les autres partenaires à soutenir le processus d'application de ces sanctions.
Les autorités de la transition rejettent cette décision de la CEDEAO. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement affirme que ces sanctions ne sont pas fondées sur aucun texte communautaire. Le Mali ferme aussi ses frontières terrestres et aériennes et rappelle ses ambassadeurs dans les CEDEAO. Suivons un extrait du communiqué lu par Colonel Abdoulaye Meïga, porte-parole du gouvernement de transition sur l'ORTM.
Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Le gouvernement du Mali invite les populations au calme et à la retenue face à toute éventualité de déploiement de forces étrangères contre notre pays. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de sa frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Le gouvernement du Mali tient à rassurer l'opinion nationale que des dispositions ont été prises pour assurer l'approvisionnement normal du pays par tous les moyens appropriés. Au regard des violations répétées des textes, principes et objectifs de ces organisations, le gouvernement du Mali tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de réexaminer sa participation à ces entités.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Et sur un tout autre plan, c'est parti pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Le match d'ouverture a opposé ce dimanche le Cameroun, pays organisateur, au Burkina Faso. Le Cameroun s'est imposé 2-1. Au compte du deuxième match, le Cap-Vert a battu l'Éthiopie 1-0. La première sortie des Aigles du Mali est prévue pour mercredi prochain contre la Tunisie. Mais avant, quel est le parcours du Mali dans cette compétition africaine? On en sait plus avec Dramane Meïka.
Allez les aigles du Mali, une chanson qui montre à suffisance la présence du Mali à cette compétition africaine de football. Cameroun ou encore Yaoundé 2021, c'est un rappel pour les amoureux du football malien de Yaoundé 72. Au-delà d'une simple date, elle représente le chemin du football malien, disent des doyens. Cameroun 1972, c'était la première participation du Mali à la CAN. C'était la génération de Salif Keita Domingo, le premier ballon d'or africain. L'équipe malienne s'est inclinée en finale contre le Congo-Brazzaville, 3-0. De 1972 à ce jour, le Mali est à sa 12e participation à la CAN. Après la deuxième place en 1972, les Aigles ont été deux fois troisième en 2012 et en 2013. Le Mali a aussi occupé trois fois la quatrième place. C'était en 1994, 2002 et 2004. Rappelons que le Mali loge dans le groupe F avec la Tunisie, la Gambie et la Mauritanie. Les Aigles du Mali doivent faire face à la Tunisie ce mercredi le 12 janvier 2022 au stade de Lembe à 13h.
Ce rappel, Dramane Meïga, la participation du Mali à la finale de Yaoundé 1972 marque encore l'histoire du football malien. Pour des supporters, c'est un grand souvenir. À 50 ans après, certains s'attendent à ce que les Aigles du Mali fassent le même exploit. D'autres sont moins optimistes. Ils réagissent au micro de Sita Sidibé.
Yaoundé 72 est un grand souvenir pour le Mali. On a été battu en finale, mais on avait des joueurs de qualité, comme les Salif Keita, les Cheikh Fane Mali Diallo, les Kindian Diallo, les Cheikh Fane Mali Keita. Vraiment, c'était des grands joueurs, pétris de talent.
Ah bon, on était contents de nos joueurs. C'était une équipe homogène, complète. Ils avaient l'amour du football. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Malheureusement, on n'a pas eu la coupe. Ils étaient meilleurs.
Mais ce que j'ai à dire, l'année 72 et l'année 2022, il y a une très grande différence. Quand je parle de l'année 72, il y avait la motivation des nationalistes. Ils se battaient pour la couleur du Mali. Mais l'année 72 était plus motivé que les jeux d'aujourd'hui.
La quatrième édition des Journées nationales du riz à Bamako a débuté jeudi dernier, organisée par l'interprofession de la filière riz au Mali. Le thème de cette édition porte sur les perspectives de la filière riz dans un contexte d'insécurité et de changement climatique. Selon les organisateurs, l'objectif est d'apporter plus de visibilité sur la riziculture au Mali. Pour cette année, l'accent est mis sur la consommation du riz Gambiaka produit au Mali. Lale Tangara nous en dit plus. C'est une dizaine de stands qui sont installés au mémorial à Modibo Keïta. Seul le Gambiaka est exposé. Il est transformé en riz étuvé, en dégué et même en chips.
Riz étuvé, du riz blanc de type Gambiaka.
C'est du Gambiaka que j'ai transporté de Nyounou. Nous vendons les sacs de 50 kg à 22 500 francs.
Selon le président de l'interprofession de la filière riz au Mali, Valérie Boli, le choix de l'exposition du riz Gambiaka n'est pas fortuit. Il estime que ce riz est le plus consommé au Mali parmi tant de variétés.
Beaucoup au Mali, c'est le Gambiaka. Mais on a remarqué qu'il y a un problème. Des gens se payent du Gambiaka, ils mettent sur un sac, le reste c'est du tout venant. Maintenant, nous, on veut labelliser. Comme ça, ils vont faire des magasins où ils vont vendre seulement Gambiaka avec label Ifrise. En ce moment, ce serait du vrai Gambiaka, tout le sac, du premier grain au dernier grain.
Cette quatrième édition des Journées nationales du riz intervient au moment où les prix de certains produits alimentaires sont en hausse dans le pays, dont le riz, l'huile, la viande. Entre fin décembre et début janvier, de nombreux couples se disent oui devant le maire, une pratique de plus en plus courante au Mali. Une semaine après les noces, à quoi ressemble la vie des nouveaux mariés? Quels sont les défis qui les attendent? Nos reporters Issa Togola et Aboubakrine Aga Mohamedine Yattara ont rencontré des jeunes couples mariés le dernier dimanche. On les écoute.
Une nouvelle année et une nouvelle vie pour de nouveaux mariés. C'est Dimoïse qui raconte certaines sorties fraîchement de la semaine initiale.
Tout est nouveau pour nous. Nous sommes un peu éloignés de nos proches. Il y a un peu de nostalgie.
Après le mariage, toute chose que je vais faire, ça ne sera plus comme étant célibataire.
Après une semaine de joie, de convivialité avec les parents et les proches, l'air est tout souci pour les charges et le défi qui s'imposent autour de Tirou. C'est quand même ce qu'ils affirment. Malgré cette quiétude, il reste toujours optimiste.
Nous avons beaucoup de projets dans le futur, mais notre priorité est de payer une parcelle et construire.
J'en suis vraiment conscient des défis. Je sais que ça ne sera pas facile, mais dès qu'on échangera, donc il y aura toujours une solution.
Pour des aînés, la vie en couple n'est toujours pas rose. Les partenaires doivent communiquer et se donner la main. L'union fait la force, conclut-il.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Un rappel des titres de ce journal avant de le clore. La CEDEAO et l'UEMOA ont pris lors des sommets extraordinaires ce dimanche à Accra, au Ghana, des sanctions très sévères contre le Mali. Il s'agit entre autres de la fermeture des frontières et la suspension des transactions commerciales entre les États membres de la CEDEAO, de l'UEMOA et le Mali. Face à la situation, le gouvernement du Mali a réagi et décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les pays de la CEDEAO et procède à la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes. Les autorités maliennes prévoient également de réexaminer la participation du pays dans ces entités concernées. Merci à tous de l'avoir suivi. Les forêts dans le cercle de Kolondieba sont de plus en plus menacées par l'installation des vergers et de l'orpaillage. Pourtant, des mesures de répression sont en vigueur depuis un moment. C'est en tout cas ce qu'estiment les responsables du cantonnement des eaux et forêts de la zone. Des spécialistes de la protection de l'environnement estiment que l'éducation et la sensibilisation des populations s'imposent face à la situation. Le magazine Parlons de l'environnement est réalisé par Fatia Tarad du retour de Kolondieba.
Le magazine Parlons de l'environnement.
La mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement et de gestion des forêts nous a permis de réduire de façon considérable la coupe du bois de chauffe et les activités liées au charbon du bois. Se réjouissent les responsables du cantonnement des eaux et forêts de Kolondieba, capitaine Ali Oumar Meiga.
Il y a ce que nous appelons des forêts classées. Et on a 4 dans le cercle de Kolondieba et une forêt dans la commune de Kolondieba et 3 forêts dans la commune de Fakola. Donc ce sont des forêts qui sont classées et protégées et c'est des réserves de l'État. Donc en dehors de ces forêts, il y a ce que nous appelons le domaine forestier protégé. Les autres domaines forestiers qui restent. Et c'est ce domaine forestier-là qui est ouvert à la coupe du bois. Et la coupe du bois est réglementée au niveau du cercle de Kolondieba, comme la loi 10.028 l'a dit.
Cependant, nous sommes conscients aussi que tout n'est pas rose, poursuit le capitaine. Les forêts sont envahies par les activités aurifères, ainsi que la promotion de la culture de l'anacarde, qui devient très bénéfique au Mali, ajoute-t-il.
Aujourd'hui, c'est le défrichement pour l'installation des vergers. Et les gens, ils coupent les forêts vierges, ils coupent pour installer les vergers d'anacarde. Et cette situation prend de l'ampleur, parce que vu le coût de l'anacarde sur le marché mondial, donc la population est en train de prendre du goût. C'est devenu pour nous-mêmes une sorte d'accaparement de terre.
Selon le chef du cantonnement, la pratique prend de l'ampleur malgré les mesures dissuasives en vigueur visant à calmer les ardeurs par rapport à la surexploitation des forêts.
Bon, pour stopper ce phénomène, nous avons des missions régaliennes que nous organisons. Donc, on organise des missions à travers des brigades mobiles. Et ces missions-là, on les organise par secteur. On essaye de sillonner toutes les forêts qui sont dans la commune. Et ces missions nous ont permis cette année de transiger, de dresser jusqu'à hauteur de 71 procès verbaux que nous avons dressés. Et parmi ces 71 procès, nous avons transmis 5 à la justice, conformément à la loi.
Cependant, rien qu'en 2019, ce fruit a été cultivé dans plus de 226 communes du Mali, selon le projet d'appui à la filière anacarde au Mali, PAFAM. L'anacarde devient donc une filière prometteuse pour les populations du monde rural. Face à ces dilemmes, des spécialistes dans la protection de l'environnement font des propositions. Dr Souleymane Traoré, enseignant-chercheur à l'université de Bamako.
Donc ce que moi, généralement, je vois qui peut être vraiment une solution alternative à ça, c'est que déjà, on a beaucoup de terres qui sont dégradées, qui sont en voie de dégradation, qu'on peut récupérer par ces plantations. Donc c'est de voir réellement au niveau de l'État comment on peut orienter les populations vers la récupération de ces terres dégradées par la plantation des anacardés au lieu d'aller vraiment vers la coupe de nouvelles formations forestières pour planter. À ce niveau, il y a beaucoup de résultats de recherche vraiment qui montrent les bienfaits de la récupération de la terre par la plantation, la régénération assistée, il y en a en pagaille. Donc c'est maintenant de transmettre ces connaissances réellement scientifiques aux populations locales pour qu'ils puissent partir réellement vers la plantation des arbres sur les terres dégradées au lieu réellement de couper des forêts pour planter.
En plus des aspects mentionnés, les eaux et forêts déplorent aussi l'insécurité. Selon elles, le phénomène réduit de façon considérable les mouvements de patrouille des agents de suivi et contrôle des forêts. C'est la fin de ce numéro de magazine Parlons de l'environnement. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.
Le magazine Parlons de l'environnement.